Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Il fut un temps, entre le XIIe et le XVIIIe siècle, où dans notre pays, en France, on jugeait dans des tribunaux des animaux. Et je vais vous raconter deux histoires d'animaux qui se sont retrouvés dans le box des accusés. Une truie jugée au Moyen-Âge pour avoir dévoré un bébé, et un perroquet jugé après la Révolution parce qu'il criait « Vive le roi !». Deux histoires que je tire d'un livre de Chantal Knecht qui paraît chez Plon, « Des animaux au prétoire ». Elle sera là tout à l'heure. J'ai écrit cette histoire avec Bettina Servant, réalisation signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Du XIIe au XVIIIe siècle, dans l'Europe chrétienne et rurale, des hommes ont intenté des procès à des animaux. Des animaux domestiques pour la plupart, des vaches, des brebis, des juments, des chiens, des chats, mais aussi des limaces, des papillons, des rats, des souris, des taureaux, des coqs et des chenilles. Mais de tous les animaux, celui qui a concentré le plus la vindicte, c'est le porc, le cochon. Il faut dire qu'à l'époque, il vivait tout près des hommes, à la campagne comme à la ville. Et surtout que c'est un animal maudit dans la Bible. Voici justement une histoire de cochon. Elle date de 1385 et se déroule à Falaise, une petite ville de Normandie, la veille de Noël. Il y a un mois et demi, Françoise Jeannet a accouché de son second fils, Jacques. On l'a baptisé le jour même, tout le village était là. Et ensuite, comme l'exige l'Église catholique, elle a observé une période de 2 mois de continence. C'est-à-dire qu'elle est restée enfermée chez elle, à s'occuper de son bébé. Et aujourd'hui, 24 décembre, c'est le jour de ce qu'on appelle ses relevailles. Elle peut enfin sortir et reprendre sa vie normale. Et d'ailleurs, la voilà qui sort de sa maison avec sa voisine et amie Agnès. Il fait très froid, le sol est gelé, elles ont toutes les deux d'épaisses capes longues et des bonnets fourrés, et elles marchent en direction de l'église. C'est que le jour des relevailles, il y a tout un rituel. Le curé les attend. Elles entrent dans l'église. Selon la coutume, Agnès asperge son amie d'eau bénite. Et ensuite, elles vont vers le curé, qui se trouve devant l'autel, avec un cierge à la main. « Pax et benedictio Dei omnipotentis, patria et fili, et spiritus sancti, descendat super te, amaneat semper. » Et ensuite, le curé dit la messe à l'intention de la toute jeune relevée. Après quoi, Françoise Jeannet va baiser l'autel 3 fois. Et elle rend au curé le crémeau, le petit bonnet dont on avait coiffé son fils le jour de son baptême. Bonnet dans lequel elle a glissé discrètement une pièce pour le curé. Et voilà, elles sortent toutes les deux, elles sont joyeuses, libérées. Ce soir, c'est la veillée de Noël. Elles ont prévu de se retrouver pour bien manger et bien boire. Quand elle arrive devant sa maison, Françoise entend un drôle de bruit. Un mélange de grognements et de cris stridents de nourrissons. Et là, elle voit sortir en trombe une énorme truie noire avec une grosse tête dégoulinante de sang. Et avec dans son groin, entre ses deux énormes crocs, un bout de chiffon blanc et rouge qui pendouille. Quand elle la voit, la bête s'arrête net. Et ensuite, elle détale dans la forêt. Françoise Jeannet entre et elle trouve son bébé en sang sur le sol, le visage tailladé. Un bras à moitié arraché. Elle se met à trembler de tout son corps. « Françoise, viens donc, on l'amène à la guérisseuse !» Mais c'est trop tard. Le petit Jacques meurt dans de terribles soubresauts, dans les bras de sa maman, en larmes.
J'avais pourtant mis des pattes de taupe dans son berceau pour que Dieu le protège.
Quand le père rentre le soir, il apprend la terrible nouvelle. Il rassemble quelques voisins et ils partent à la recherche de la truie. Mais ils ne la trouvent pas. Le lendemain matin, arrivent 5 émissaires du vicomte de Falaise qui fait aussi office de juge. Ils tiennent palabre dans la maison un bon moment et ils annoncent leur décision.
Il nous faut capturer la meurtrière. Elle n'échappera pas à la justice des hommes.
Une battue est donc organisée dans la forêt. Et dans une clairière, les villageois tombent sur la bête, la tête couverte d'une épaisse couche de sang coagulé. Ils ont un peu de mal à s'en emparer. Elle se débat. Et finalement, ils réussissent à la hisser sur une charrette, attachée par les pattes. Et ils l'emmènent tout droit au château du vicomte, qui est aussi le palais de justice. Lequel vicomte prend immédiatement une décision.
Mettez-la dans une cellule.
On conduit donc la truie au sous-sol du château. Et elle gueule. Et on l'enferme dans un cachot sombre et humide, le même que les hommes, derrière de gros barreaux. Et les autres à côté, les détenus humains, sont furieux.
C'est quand même pas possible qu'on nous met avec un porc.
Mettez-vous à leur place. L'odeur, les râles, les cris, les gros mêlements. Le vicomte désigne alors pour la truie un avocat commis d'office, véridique, hein, un certain Pierre Martel. Et il désigne un procureur, Colin Ghislain, qui se rend à la prison pour interroger la truie. Je n'invente rien. Et évidemment, il lui pose des questions et elle s'enferme dans le silence. Et d'un coup, elle se rue sur lui en poussant un long cri. Et le procureur en conclut que ce sont des aveux. Arrive le procès. Un huissier, le prévôt et un sergent de ville vont extraire la truie de la cellule. Et ils lui lisent à haute voix l'acte d'accusation. Il la maîtrise, il la remonte, il la traîne au tribunal. À son passage, les cloches de l'église sonnent à toute volée. Le procès, bien sûr, est public. Et la salle est pleine à craquer. Beaucoup de gens ont dû rester dehors, dans la froidure.
Faites entrer l'accusé, je vous prie.
La truie est alors traînée dans la salle de justice, maintenue par 4 hommes.
Retirez ces cordes et ces chaînes, je vous prie.
Et on la place dans une cage.
Monsieur le procureur, vous avez la parole.
Le procureur commence par rappeler les faits.
J'ai moi-même interrogé la propriétaire de l'animal, qui m'a raconté penaud que la truie était une récidiviste. Elle a déjà tué par le passé et dévoré quelques-uns de ses gorées, en toute impunité. Monsieur le juge, il faut la condamner à mort. C'est incapendable. Je ne vois pas pire que tuer un enfant. C'est de la pure barbarie. Je demande la mort pour cette truie criminelle telle est la loi du talion. Que justice soit rendue. Je vous en prie. Je vous en prie, sinon je fais évacuer la salle. Je donne la parole à l'avocat de la famille de la victime.
Je vous remercie, monsieur le juge.
Ces gens ici ont blessé au plus profond d'eux-mêmes. N'avoir laissé leur nourrisson dormir seul. Mais pour eux, c'était un lieu sûr. Il n'y a plus de loups dans la région. Et ils ne craignaient pas les voleurs puisqu'ils sont pauvres et simples. La truie a le goût de la chair, on le sait. Elle a déjà dévoré la chair de sa chair. Et c'est un jour de Noël qu'elle commet son crime. Jour béni de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Un enfant naît et un autre meurt. Une vie chrétienne est assassinée à son aurore. Aucune pitié pour cette truie immonde. Monsieur le juge, cette bête doit cesser de vivre à jamais. Il faut la pendre et la brûler. Je vous remercie, maître. La parole est à l'avocat de la défense. Monsieur le juge, oui, cette truie est cruelle. Mais voyez-vous, elles ne se rend pas du tout compte de ce qu'elle a fait. Hein? Un cochon est un cochon. Et pour elle, manger n'est pas un crime. Pour elle, un bébé ou un insecte, c'est du pareil au même. Et puis, ce serait un blasphème de s'opposer à la création de Dieu. Cela reviendrait à s'opposer à Dieu lui-même. Et j'ajouterais qu'agir contre un animal qui est dépourvu de raison est odieux et vain. Et par conséquent, illicite. Alors je vous le demande, monsieur le juge. Il importe de ne pas infliger à ma cliente la peine capitale. Je vous remercie.
La truie est là, couchée sur le côté dans sa cage. Elle a les pattes en l'air et les mamelles flasques.
Veuillez la redresser, je vous prie. Sa position n'est pas respectueuse vis-à-vis de la cour.
Et le vicomte Regnault Rigaud se retire pour délibérer. Il revient et il annonce la sentence.
Bien. Je déclare la truie coupable de crime sur enfant. Que cette bête diabolique soit livrée au bourreau dès demain. Elle sera pendue haut et court sur la place publique par les deux pattes arrière, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et j'ordonne en outre aux parents, ainsi qu'aux porchers propriétaires de l'animal, d'assister à l'exécution. Et je requiers par ailleurs instamment la présence de tous les cochons résidant dans notre ville de Falaise. Ce crime ne restera pas impuni.
Le lendemain, quand le bourreau Nicolas Barigné arrive sur la place du palais de justice, il est avec son fils de 14 ans, Martin, lequel vient de faire son apprentissage chez un bourreau de la commune voisine. Il va donc pouvoir l'assister. Et arrive la truie sur une charrette. Autour du cou, on lui a mis une pancarte sur laquelle est écrit « Impie ».
Laissez passer la justice du roi ! Laissez passer la justice du roi !
Et la charrette arrive sous la potence qui a été dressée des lobes. Et tout le matériel testé, hein, la corde, le mécanisme d'étranglement et le trou de la trappe qui a été élargi. Et les gens crient « À mort le cochon !» La famille Jeannet est là, le propriétaire de la truie aussi, et selon la volonté du juge, au premier rang, il y a une bonne cinquantaine de cochons apeurés. Je n'invente rien. On installe la bête sur un tréteau. Et là, on découvre qu'elle est habillée comme un homme. On lui a collé une veste et même des gants et un masque humain sur la tête. Le vicomte est droit sur son cheval. Tandis que le bourreau enfile ses gants, il fait un signe au curé qui s'approche.
Tu as fauté, animal impur. Et te voilà puni et condamné à mort. Dieu est grand et t'implore de te remettre à lui, afin que soient lavés tous les péchés que tu as commis. Que le Seigneur soit avec nous. Amen.
Le prêtre fait un tout petit signe de croix. Il se retire, et après ça va très vite. Le bourreau arrache les vêtements de la truie. Il déclenche le mécanisme de la potence, quelques convulsions, et la truie rend son dernier souffle. Le procès-verbal précise qu'il est interdit de manger un seul morceau de chair de cette truie. On va donc brûler le corps. Mais avant ça, le bourreau va découper la moitié de son groin et sectionner l'une de ses deux pattes arrière. Les mêmes mutilations que celles qu'elle a infligées au bébé. Et après, seulement après, on jette le cadavre au feu. Après le procès d'une truie au Moyen-Âge, voici l'histoire tout aussi véridique d'un perroquet jugé au XVIIIe siècle, juste après la Révolution. L'histoire commence en 1790, dans le nord de la France, à 3 km de la frontière belge, dans le vaste domaine du marquis de Fieffville de Steenvoorde, le grand seigneur du pays, ancien conseiller de la justice du roi. Le marquis est veuf, il vit là seul avec sa fille Claire-Françoise, deux servantes, un jardinier et un perroquet. Un beau perroquet savant acheté quelques années plus tôt à Bruxelles. Au début, en souvenir de son pays, le perroquet criait du matin au soir.
« Vive l'empereur ! Vive l'empereur ! »
Et puis au contact du marquis, il s'est mis à crier du matin au soir.
« Vive le roi ! Vive le roi !»
Ce perroquet, que le marquis appelle parfois Jaco et parfois Coco, trône sur un large perchoir dans le salon du rez-de-chaussée. Aucun visiteur du marquis ne peut échapper à ses yeux ronds et perçants. Et en fonction, il s'adapte. Quand les servantes, par exemple, apostrophent
« Vive les nobles ! Vive les nobles !»
Et quand le dimanche soir, le curé vient dîner
« Vive l'église ! Vive le prêtre ! Vive le roi !»
En septembre 1791, la fille du marquis, Claire-Françoise, épouse son cousin Germain, le fils du comte de Béthune. Compte tenu des circonstances, c'est-à-dire 2 ans après la Révolution, la noce se déroule en petit comité. Et dans la foulée, toute la famille décide d'aller s'installer à Arras, à quelques kilomètres du château, dans l'hôtel particulier que possède le gendre, rue du Saumon. Et naturellement, le perroquet est du voyage. Et on l'installe comme au château, dans une pièce du rez-de-chaussée, près d'une fenêtre, qui donne sur une petite rue étroite et passante. Et l'animal qui, au château, voyait toujours les mêmes personnes, se retrouve à mater des visages inconnus. Et les passants, tous les passants, sans exception, lui font un petit coucou.
« Bonjour, Jaco ! Vive les prêtres ! Vive le roi ! »
Seulement voilà, Arras est la ville natale de Robespierre, figure de la Révolution. Et le marquis, avec son château trop imposant, ses domestiques trop obéissants et son perroquet royaliste, aurait dû partir. Choisir l'exil, il n'a pas pu s'y résoudre. Et donc en août 1793, il est arrêté. Lui et sa fille, et le bébé qu'elle vient d'avoir, sont incarcérés à la prison des Baudets. Dans la foulée, les deux servantes et la sœur de madame, la comtesse de Modène, décident de se mettre en lieu sûr avec le perroquet, à qui toute la journée, elles doivent dire « Chut, chut !» Et un jour, le perroquet entend des bruits de pas dehors et il aperçoit par la fenêtre un groupe d'hommes en uniforme qui chantent.
Dansons la Carmagnole, vive le son, dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Vive le roi, vive l'armée du roi, vive les nobles.
Les hommes s'arrêtent comme tétanisés, leur sang se met à bouillonner, ils notent l'adresse et vont de ce pas raconter leur aventure au commissaire. Un procès-verbal est dressé, et dans la foulée, un acte d'accusation. Je vous en lis un extrait. Il en résulte que les nommés Louis-Auguste et Claire-Françoise Lafièvreville ont conservé un perroquet qui répète « Vive l'empereur, vive le roi, vive nos prêtres et vive nos nobles » et que leurs deux servantes avaient connaissance que ce perroquet existait et ne l'ont pas déclaré, ou plutôt tué. Les deux servantes sont arrêtées et incarcérées, et l'animal devient, comme ses maîtres, un ennemi de la Révolution. Et donc, un procès est organisé dans la foulée. Il s'agit de juger d'abord le marquis, sa fille et une des servantes, mais aussi le perroquet, avec un président, un accusateur public, des jurés et des juges. Le perroquet est conduit à l'audience. On l'installe sur la barre des accusés, qui lui tient lieu de perchoir. Et les juges tentent de le faire parler.
« Jaco, montre-nous donc tu sais parler. Dis-nous, vive le roi !»
Mais le perroquet est recroquevillé sur lui-même. Il refuse de parler. Il est tourné vers le marquis qui est là, et il roule de gros yeux implorants. Et puis à un moment, il tourne le dos au juge, il se met face au public et il se met à agiter ses ailes, ce qui déclenche un immense éclat de rire. Et les gens crient « Encore, Jaco, encore !»«
Silence, je vous prie! Silence! Ou je fais évacuer la salle !»
Le marquis est appelé à la barre.
Monsieur le Président, messieurs les jurés, comment pouvez-vous juger un animal? Comment cette nouvelle république que vous défendez avec tant d'ardeur se donne-t-elle le droit absurde d'accuser un perroquet de délit d'opinion? Par quel égarement un animal se trouve-t-il devant un tribunal? Citoyen Vieffville, je reconnais que tu ne te serais pas mis en danger en inculquant volontairement des propos séditieux à un oiseau stupide et incapable de penser par lui-même, hein, tout juste capable de répéter ce qu'il entend. Mais les faits sont là, et si le volatile crie « Vive le roi !», c'est que tout son entourage est royaliste. Et donc ce gibier à plumes, phraseur, beau parleur et jacasseur, n'a que ce qu'il mérite. Et ses cris vous accusent, toi, ta bourgeoise de fille et tes servantes. S'il est aussi sot et infatué qu'on ne le dit, est-il apte à se convertir à d'autres idées? Les jurés en décideront. Et je ne veux pas entendre parler d'une quelconque conscience du perroquet.
Le jury décrète qu'il en a assez entendu, et il rend son jugement.
Le tribunal révolutionnaire, établi à Arras, condamne Louis-Auguste Lafièvreville, Isabelle Claire-Eugénie Lafièvreville, femme Béthune, et Marguerite Farineau, leur servante, à la peine de mort. L'exécution aura lieu dans les 24 heures sur la place de la Révolution. Et leurs biens seront confisqués au profit de la République. Ainsi fait et prononcé à Arras le 4 Floréal, en deux de la République française, une et indivisible, en l'audience du tribunal révolutionnaire établi à Arras.
Le marquis et sa fille sont guillotinés le soir même. Et le perroquet, quel fut son sort? Eh bien, le tribunal révolutionnaire ne l'a pas condamné à mourir, mais à vivre autrement. Par décret, il l'a confié à la femme de Joseph Lebon, qui est une figure locale de la Révolution. À charge pour Madame Lebon de le rééduquer.
Répète après moi, mon bon Jaco. Citoyen. Citoyen! Bien. Patriote. Patriote! C'est très bien, mon bon Jaco. Liberté. Liberté!
Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Voilà donc pour ces deux histoires que j'ai tirées, Chantal Knecht, de votre livre extraordinaire qui paraît dans la collection Abeilles de la Maison Plon, des animaux au prétoire, 14e, 20e siècle. Alors évidemment, ma première question est très simple. D'où sortez-vous ces histoires? Dans quel état les avez-vous trouvées? Et quelle part de romance vous êtes-vous donnée dans ce livre?
C'était très variable, c'était selon un petit peu les archives. Moi, j'ai recensé environ plus d'une centaine de procès. On peut dire qu'il y en a à peu près une soixantaine qui ont été développés. Ces deux histoires-là, elles sont assez représentatives et ce sont certainement les deux histoires que vous avez choisies qui sont les plus proches de la réalité parce qu'elles sont extraites d'archives judiciaires. Donc les noms sont réels, les faits sont véridiques, les périodes sont réelles. La romance, elle est juste un petit peu autour de
dans
petites
histoires. Dans
les dialogues,
histoires. Les plaidoiries, le choix des mots.
Oui.
Simplement, vous les situez dans l'époque, évidemment.
Oui, en les contextualisant un petit peu. Bon, la Carmagnole, c'est marrant. Mais ça, ce sont des histoires vraiment issues de petits fascicules qu'aimaient faire, vous savez, les sociétés savantes du 19e siècle.
Donc, il y a déjà eu une recherche avant vous. Ce sont des gens qui ont déjà exploité des archives au 19e siècle.
Entre autres, une des revues les plus célèbres que le procès Fillon a popularisé, la Revue des Deux Mondes. Donc il y avait beaucoup de revues comme ça sur des petits fascicules. Et parfois, les archives étaient assez importantes. Donc j'ai pu les citer sans trop romancer. Mais vous savez, les archives judiciaires, elles sont quand même un petit peu sèches.
Elles sont en latin déjà, non?
Beaucoup étaient en latin. En tout cas, les plaidoiries étaient en latin. Donc les intellectuels du 19e siècle de ces sociétés savantes se sont vraiment amusés à les traduire. Mais comme les références étaient souvent chrétiennes, donc forcément, les plaidoiries étaient en latin.
Mais vous avez eu la curiosité d'aller plus loin, c'est-à-dire d'aller chercher l'archive initiale. C'est-à-dire, on trouve encore aujourd'hui, on est capable de trouver les éléments qui résultent de ce procès intenté au XIIe siècle, au XIIIe siècle, au XIVe siècle, pardon, à Falaise en Normandie.
Oui, ça c'était la plus célèbre. S'il y a des auditeurs de Falaise, d'Europe 1, beaucoup devraient connaître cette histoire parce qu'elle a été popularisée. Puis je crois qu'il y a eu une pièce de théâtre à l'époque pour les enfants. D'abord, c'est la plus emblématique parce qu'elle concerne un cochon. Et les cochons, c'était vraiment les animaux les plus persécutés pour trois raisons. D'abord, ils étaient les plus proches des hommes. C'était quand même une France rurale. Paris était une ferme. C'était les plus vagabonds. Et puis on dit que sur le plan de l'anatomie, c'était aussi le plus proche de l'homme. Bon. Mais la truite falaise, c'est la plus célèbre de tous. Ceux qui s'intéressent un petit peu connaissent toute la truite falaise. Puis il y a eu sur le fronton de l'église de la Sainte Trinité à Falaise, il y a eu une fresque
qui
représentait ça, mais qui apparemment, avec des travaux de peinture, je crois au 19e siècle de Chaux, a recouvert complètement cette fresque. Donc elle est célèbre pour ça.
Vous me dites qu'à Falaise aujourd'hui, on sait cette histoire. Plus ou moins.
Oui, plus ou moins, oui. Plus que, par exemple, je ne sais pas, les rats d'Autun. Parce qu'elle a été popularisée. Mais je pense que cette histoire devrait être connue. Il faudrait interroger les personnes, ce que je n'ai pas fait. Elle est connue de cette commune du Calvados. Oui.
Alors, ce qui est étonnant, évidemment, c'est comment ces histoires, notamment l'histoire de la truie, résonnent aujourd'hui, à cette époque, la nôtre, qui est en train d'essayer de replacer l'animal à hauteur de l'homme. Car déjà, finalement, au nom du fait que les animaux étaient des créatures de Dieu, comme l'homme, l'animal était mis à la même hauteur. On lui donnait un avocat.
Alors, il y a effectivement cette thèse, vous avez raison, qui créait une sorte de parité entre l'homme et l'animal. C'était des êtres vivants créés par Dieu, donc à ce titre-là, on devait les traiter de la même manière. L'animal commettait un délit, l'homme n'était jamais pénalisé. Jamais, jamais, jamais.
C'est-à-dire, par exemple, là, on n'a pas cherché la responsabilité du propriétaire de la truie. Ce qu'on ferait aujourd'hui.
Oui, mais je ne sais pas si l'animal serait pénalisé maintenant.
On est responsable de son chien s'il mord quelqu'un dans la rue, c'est le propriétaire qui est poursuivi.
Il aurait peut-être une amende.
Mais pas le chien.
Voilà.
Et alors, la place donnée à l'animal tient au fait qu'au fond, on fait une lecture très littérale au Moyen-Âge de la Bible.
Exactement. Exactement. La phrase la plus emblématique de la raison pour laquelle on mettait les animaux au tribunal, parce qu'il n'y avait pas de texte, il fallait bien des textes pour justifier les procès, c'était dans la Bible, on le retrouve, si un bœuf tue une femme ou un homme, d'un coup de corne, le maître sera jugé innocent, mais le bœuf sera lapidé.
Donc c'est une interprétation au mot près.
Exactement.
Qui traduit assez bien le rapport qu'on avait à ce qu'on appelait la foi du charbonnier, finalement.
Exactement. Exactement.
Une lecture littérale dont on s'est éloigné et peut-être à laquelle on revient aujourd'hui. Et sans doute avez-vous découvert à l'occasion que ça a existé, deux histoires, une histoire de truie qui au Moyen-Âge a trucidé un bébé et qui a été jugé, pendu et brûlé, et l'histoire d'un perroquet qui criait « Vive le roi !» après la Révolution et que les révolutionnaires de Robespierre et de la Terreur ont jugé avec ses maîtres pour contre-révolution et pour s'opposer à la Révolution. Cette histoire d'ailleurs est très intéressante, Chantal Knech, c'est de votre livre que je tire ces deux histoires, des animaux au prétoire aux éditions Plomb. Elle est intéressante parce que, pour le coup, ça n'est plus le poids de l'Église catholique. Quoique, je me demande si on n'est pas pile à l'articulation où il reste cette culture chrétienne qui fait qu'on va juger le perroquet en même temps que ses hommes, mais qu'en même temps, il y a une résistance qui vient de l'esprit humaniste de la Révolution et que d'entrée, le juge dit « ne me racontez pas que le perroquet a une conscience ». Donc il est entre deux, quoi. On est à l'articulation.
Oui, c'est vrai. Mais en même temps, l'animal est toujours coupable. Et qu'est-ce qu'il crie? Pourquoi il est responsable? Pourquoi il est coupable? Pourquoi on veut le condamner, le perroquet? Il crie quand même, non seulement vive le roi, mais vive l'Église et vive nos prêtres.
Oui.
Parce que la noblesse l'autorisait à ça. Donc, il était coupable. Donc, comme ils avaient assez peu, alors on ne sait pas trop bien pourquoi, de sanctions à prendre contre toute la famille du marquis, si le perroquet crie vive le roi, vive les prêtres, c'est qu'il est royaliste, donc il a été élevé dans cet esprit-là.
Il est complice, quoi.
Donc la famille est coupable. Il fait un délit d'opinion, c'est lui qui est coupable, et c'est pas l'inverse. C'est comme si maintenant, on disait le pangolin, on parlait de le pangolin est responsable, la chauve-souris aussi, et jamais l'écologie, la déforestation, etc. C'est exactement la même chose. C'est le contraire qui se produisait. Et c'est ça qui est incroyable.
Alors, ce qui est intéressant dans le verdict, c'est qu'au Moyen-Âge, ce perroquet, on l'aurait donc plumé et brûlé. Là, on va le rééduquer. Oui. Ça colle à l'idée humaniste selon laquelle chaque homme peut changer pourvu qu'il change.
Voilà, exactement. Mais enfin, on avait quand même passé à la guillotine la famille, ça, il faut quand même pas exagérer, on est en pleine terreur. Mais le perroquet, oui, effectivement, il doit être rééduqué. Alors, moi, c'est une de mes préférées, ces histoires, parce que, d'une part, l'animal n'est pas tué, donc c'est quand même pas mal.
Ça se finit bien.
Oui, ça se finit bien.
Mieux pour le perroquet que
et
pour le marquis.
Oui, bien sûr. Et c'est très rare. Et puis, en plus, souvent, dans les procès antérieurs, un des arguments de la défense était de dire « Oui, mais vous ne pouvez pas condamner les animaux parce qu'ils ne parlent pas. » Or là, on a affaire à un perroquet qui parle, enfin un animal qui parle. Donc c'est une sorte de schizophrénie animale, quoi. C'est très amusant parce que c'est... Alors, mais en même temps, ça raconte aussi cette époque-là. Il y a eu des chiens aussi qui étaient complices. Dans le livre, je le raconte aussi, une histoire de chien contre-révolutionnaire qui était complice. C'est incroyable, c'est une utilisation de l'animal qui est quand même assez folle, quoi.
Et ce qui est intéressant dans ces deux histoires, pour le coup, qui pourtant se déroulent à 400 ans d'intervalle, c'est que à chaque fois, on offre un avocat à l'animal. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que ça prouve que l'idée de justice remonte à très loin. L'idée que on peut se défendre, qu'il est honorable de se défendre, même quand on a commis un crime.
Oui, ça c'était un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, moi je retiens beaucoup plus l'aspect de parité entre l'homme et l'animal, plus que les animaux sont des gens inférieurs, impurs, etc. Mais il y avait cette espèce de souci, moi, des historiens m'ont dit ça, même si les historiens se sont jamais intéressés à l'animal, mais des historiens, entre autres Marc Ferraud, m'avaient dit, attention, à cette époque-là, on voulait juger les animaux comme les hommes, on les traitait comme les hommes. Bon, c'est vrai qu'ils étaient la plupart du temps condamnés. Mais il y avait une espèce de parité. Et là, c'est exactement le cas, et ça, c'est quand même très intéressant, quoi.
C'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, régulièrement, le rôle de l'avocat, lorsqu'il défend l'indéfendable, et défendre une truie qui a mangé un bébé, c'est défendre d'une certaine manière l'indéfendable, est contesté. Mais déjà, en 1385, on exprime le besoin d'offrir à cette truie quelqu'un qui porte sa parole et qui développe des arguments en son nom.
Exactement, mais vous savez, c'est intéressant parce que en mars 2010, donc il y a quand même pas si longtemps que ça, il y a un avocat suisse du nom d'Antoine Götschel, sous réserve que je prononce bien, un avocat de Zurich qui avait proposé en Suisse, vous savez, les fameux référendums suite à des votations, il voulait défendre lui-même les animaux et non pas les propriétaires d'animaux, et le référendum n'est pas passé. Mais c'était quand même une première, quoi. C'est
on y reviendra
peut-être. En 2010.
Quelque chose.
Alors peut-être que c'est dans l'air, je ne sais pas.
Dans l'époque, quelque chose me dit qu'on reviendra.
Parce que, dans le fond, on parle du droit de l'animal.
Ouais.
Dans le fond.
Dans le fond, on parle de ça.
On en parle tellement.
Merci beaucoup, Chantal Knecht, d'abord d'avoir écrit ce livre qui est une mine d'or pour des gens comme moi.
Merci à vous.
Des animaux au prétoire aux éditions Plon. Et merci d'être venu débriefer ces deux histoires. Faudra qu'on recommence. Donnons-nous rendez-vous parce que j'ai feuilleté le livre. Il y en a au moins deux ou trois autres qui m'intéressent bien. Une histoire, je crois, de jument. Une histoire de brebis sodomite que j'adore.
Oui, des histoires de sexualité entre les hommes et les animaux.
Et des charançons aussi. J'ai vu une belle histoire de charançons. Ce sont des coléoptères qui mangeaient des cèpes de vigne et qu'on a
excommunié. C'est une autre sanction, ça.
On se reverra donc.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.